18h-19h,
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Bienvenue dans votre grand journal du soir, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il résonne ce soir comme un petit air de fête. Ambiance des grands soirs, la fin d'un Tour de France de folie que nous allons vivre en direct avec une émission spéciale sur Europe 1 de 19h à 22h. France Télévisions claironne avec des audiences qui font un carton. Le patron des sports, Laurent-Éric Lelay, sera avec nous à 18h40. Mais au milieu de cette musique festive, Antoine Vaillé sera-t-il la voix dissonante de la soirée? Le grand pourfendeur du dopage dans le cyclisme viendra nous dire à 18h15 si ce Tour 2019 était propre ou non. Et puis, musique oblige, c'est le chant des cigales qui nous accompagnera ce soir pour notre étape culinaire du jour, vos régions sur un plateau, halte en Provence pour goûter l'aïoli.
Et réagissez à l'émission de Sébastien Guyot sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur europe1.fr. Bonne soirée sur Europe 1, il est 18h. Le grand journal du soir, Sébastien Guyot.
Et à la une ce soir, l'épilogue du Tour de France. Donc départ dans quelques minutes de Rambouillet, direction les Champs-Élysées pour une arrivée nocturne vers 21h15. Les mesures anti-incendie ne sont pas aux normes dans de nombreux hôpitaux publics en France, selon le JDD. L'urgentiste Patrick Peloux nous dira qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Et puis nous vous aiderons à circuler sur les routes pour ces retours de vacances ou de week-end.
Europe 1.
C'est déjà la fin. Après trois semaines de folie sur le Tour de France, dernière étape ce soir, dernier départ dans quelques minutes pour les coureurs du Tour. Bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir Sébastien.
Les 155 rescapés vont s'élancer dans un instant de Rambouillet pour rejoindre les Champs-Élysées. Et le maillot jaune sur son vélo va certainement avoir le droit à sa traditionnelle coupe de champagne.
Effectivement, alors il est probable qu'il la prendra cette coupe de champagne une fois franchi officiellement les portes de Paris. Mais pour l'instant, nous avons deux ambiances différentes. L'effervescence du côté de Rambouillet où sera donné dans quelques minutes le départ de cette 21e et dernière étape du Tour de France. Notamment toujours particulier, après trois semaines d'efforts, les coureurs voient le bout d'un long tunnel et le simple fait de voir la Tour Eiffel et de couper la ligne à Paris sur les Champs-Élysées est déjà une victoire en soi. On le sait, Thibaut Pinot ne sera pas là, lui qui a dû abandonner vendredi lors de la 19e étape. Julien Alaphilippe en revanche est bien présent, mais cette fois son maillot n'est pas jaune, mais d'un bleu qu'il connaît bien, celui de son équipe, la De Koninck Quick-Step. Le Français a passé 14 jours en jaune et remporté deux étapes. Il s'offre une 5e place au général et des souvenirs plein la tête, lui qui a laissé sa peau sur la route comme il le confiait ce matin. Il n'aura pas droit au protocole ni au podium, mais après tout, qu'importe. Il a donné et fait plaisir au public. À moins de 10 minutes du départ, maintenant, les maillots distinctifs sont là. Egan Bernal, vous l'avez dit, premier Colombien, vainqueur du Tour et meilleur joueur. Peter Sagan, un 7e maillot vert, record absolu pour entrer dans la légende du sprint. Et Romain Bardet, un maillot à poids en guise de consolation d'un Tour qui n'est pas celui dont il rêvait. 128 km à parcourir, au kilomètre 62 très précisément, le peloton entrera dans Paris et effectuera 8 passages sur la ligne, ici sur les Champs-Élysées, avant de désigner le vainqueur.
Merci Christophe Lamarre, arrivé sur les Champs-Élysées vers 21h-21h30. Et je vous rappelle cette émission spéciale de 19h à 22h sur Europe 1. En tout cas, les supporters colombiens sont déjà là à Paris, prêts à accueillir leur héros Egan Bernal, 22 ans, plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre.
Les Colombiens sont contents du succès d'Egan Bernal. Le cyclisme colombien est au sommet du cyclisme mondial.
Parmi les vainqueurs du Tour, c'est l'un des plus jeunes. Pour nous, c'est une fierté, une manière de démontrer la force de notre peuple. Nous remercions les Français de nous avoir donné la chance de participer au Tour.
Colombia, 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 Colombia.
Les supporters colombiens rencontrés tout à l'heure à Paris par Sophie Echen, ils seront nombreux vers 21h30 pour acclamer Egan Bernal, arrivé en nocturne, donc c'est rare. On en parlera avec le patron des sports de France Télévisions vers 18h40. Et avant cela, à 18h15, on dressera donc le bilan de ce Tour avec Antoine Vaillé, l'ancien entraîneur de Festina. Il nous dira notamment si le dopage a disparu ou non de la grande boucle.
Il est 18h03.
De nombreux hôpitaux publics ne respectent pas les normes anti-incendie. C'est ce qu'affirme le journal du dimanche. 6400 avis défavorables auraient été émis sur 51 000 contrôles effectués dans les établissements recevant du public en France. Dans le viseur notamment, l'hôpital de la Timone à Marseille ou encore 20 bâtiments de la PHP sur 370 à Paris. Faut-il s'en inquiéter ? Écoutez la réponse de l'urgentiste Patrick Peloux.
On n'est peut-être pas aux normes en termes de normes de sécurité incendie, mais en termes de sécurité et d'intervention, l'expérience a prouvé que ça marchait bien. Vous avez un travail en coopération avec les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que partout en France, les établissements sont particulièrement surveillés et vous avez des protocoles d'intervention très important, qui font que si vous avez un départ de feu, vous avez énormément de moyens de sapeurs-pompiers qui arrivent tout de suite. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Par exemple, mettre aux normes de sécurité incendie l'hôpital Bichat à Paris coûtait plus cher que de le raser, de le reconstruire. Du coup, ils ont décidé de faire l'hôpital Nord à Paris. Les hôpitaux, il n'y a plus d'argent.
Patrick Peloux avec Claudia Bertram. Trois gilets jaunes placés en garde à vue hier soir à Paris après avoir passé à tabac un automobiliste. Il était 19h30, place de la République, quand une cinquantaine de manifestants s'en sont pris à cet homme qui voulait retirer un vélo apparemment lancé sur la voie publique par des gilets jaunes. L'automobiliste souffre d'une fracture à la cheville. Et puis l'une des figures des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a également été placé en garde à vue ce matin près de la Roche-sur-Yon en Vendée, mais cette fois pour une suspicion de violence conjugale. Les règles d'indemnisation du chômage vont bientôt changer. Le gouvernement avait présenté sa réforme en juin. Le décret a été publié ce matin au journal officiel. Tout est prêt donc. Bonsoir Jean-Jacques Héry.
Bonsoir.
On va voir avec vous ce qui va changer dès le 1er novembre.
Eh bien, premier constat, ouvrir des droits au chômage sera plus compliqué car pour débloquer une indemnisation, il faudra travailler plus longtemps. Avec les règles actuelles, il fallait avoir cotisé 4 mois sur les 28 derniers. Maintenant, ce sera 6 mois sur les 2 dernières années. 2 ans, donc, devient la fameuse période de référence utilisée pour le calcul de l'indemnisation. Ce mode de calcul, il va aussi changer. Alors, je vous passe les détails parce que c'est un peu technique, mais sachez qu'aujourd'hui, on prend en compte uniquement le nombre de jours travaillés pendant la période de référence. Eh bien, avec cette réforme, ce seront tous les jours travaillés ou non qui seront pris en compte, avec à la clé une baisse des indemnisations mensuelles pour ceux qui ont travaillé de manière fractionnée, les intérimaires par exemple. Ils verront leurs allocations baisser, mais ils les toucheront potentiellement plus longtemps. Ce nouveau calcul, il sera effectif au 1er avril 2020. On touche aussi aux règles pour les gros salaires. Les chômeurs qui gagnaient plus de 4 500 euros bruts, ça concerne les cadres. À partir du 7e mois indemnisé, leur allocation chômage sera automatiquement amputée de 30%. Enfin, les démissionnaires pourront aussi toucher le chômage. C'est nouveau et c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et ce, à deux conditions. 1. Avoir travaillé 5 ans dans la même entreprise. Et 2. Justifier une reconversion professionnelle.
Merci Jean-Jacques Héry.
Europe 1. Dans un instant, la suite du journal de Sébastien Guyot. Nous vous aiderons à circuler sur la route des vacances. A tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Bison futé avait classé la journée en orange dans le sens des départs et on voit tout de suite comment vous circulez ce soir.
Pour un départ en vacances zéro tracas, MMA vous présente le radioguidage Europe 1.
Et c'est avec Marion Jorte.
Eh bien, ce soir, il y a encore un peu de ralentissement. Il se concentre pour la grande majorité sur l'autoroute A7 en direction de la Méditerranée. Ça bloque à la sortie des grandes villes. Vous risquez d'être coincé, notamment à Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon en direction du sud. Circulation également compliquée au niveau du tunnel du Mont-Blanc. Il y a actuellement plus de 30 minutes d'attente pour traverser. Le retour à la normale devrait se faire vers 21h ce soir. Et puis en direction de la Bretagne et de la Normandie, si vous passez par Paris, il y a des bouchons autour de Rouen et de Caen. Beaucoup d'attentes également au niveau du péage de Beuzeville. Ailleurs en France, pas de problème majeur, cela circule plutôt bien.
Merci Marion, courage à vous. Et au bout de la route, les vacances pour beaucoup. On va aller du côté du fort de Brégançon. Pas de sortie officielle aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, sur la place du village, devinez quoi ? On joue à la pétanque. Et oui, une passion qui rassemble toutes les générations. Yasmina Katou.
Derrière la plage à l'ombre des platanes, trois générations s'affrontent sur le terrain. Alain entraîne son petit-fils Lorenzo, 12 ans.
J'étudie le terrain, il y a des bâtons, des pierres et après on joue.
Même s'il joue contre lui, Alain ne peut pas s'empêcher de donner des conseils à son jeune poulain.
Pas trop fort, hein ? Tu dis joue fort alors là.
On va essayer de faire un beau point.
Lorenzo tire Et
c'est bon, j'ai pris le point.
Le père de Lorenzo a des difficultés, le terrain est légèrement bossu. Tirer ou pointer, il faut choisir.
On va essayer de tirer, mais bon, c'est loin.
Oh là là, c'est des jeux de gaucher pour un droitier, je devrais les envoyer avec les pieds, je pense que je vais être meilleur. Oh là là là.
Sébastien a appris à jouer au boule à l'âge de 10 ans. Pour son père Alain, la pétanque, c'est une histoire de famille.
Toutes les familles jouent au boule. Donc de tout petit, comme là, ils apprennent à jouer. On se distrait, quoi.
Et vous avez appris à votre fils ?
Oui, qui a appris à son fils. Et ça se perpétue.
Après une heure de jeu, sans grande surprise...
On a gagné. Je vous l'avais dit que je me réveillerais à la fin. Juste pour mettre les 2 points qu'il fallait.
Ça va.
Sur un terrain de pétanque à Brégançon, Yasmina Katou, Europe 1.
Et la pétanque, Laurent Cabrol, demain, on va pouvoir la pratiquer, j'imagine, le temps s'améliore.
Eh bien, effectivement, nous allons vivre une journée de demain en amélioration constante par rapport à ce que nous avons vécu. Déjà, cet après-midi, on peut dire que la plupart des régions se sont dégagées de leurs nuages, au point que pratiquement, il n'y a plus de pluie maintenant sur la France. Et demain, le ciel sera sec et nous aurons donc une journée extrêmement ensoleillée, avec cependant une petite poussée nuageuse sur le Finistère. Le Finistère donnera quelques nuages avec de la pluie et avec aussi quelques rafales de vent jusqu'à 60-80 km/h. Ces rafales de vent vont gagner dans le courant de la journée le Morbihan, les Côtes d'Armor et la région nantaise. Voilà pour une petite nuance installée sur une carte de France généralement ensoleillée. Voyons les températures pour demain. 23 à Brest, 25 à La Rochelle, 26 à Lille, 27 à Nantes et Poitiers, 28 degrés à Bourges, à Nice, à Dijon, à Rennes et Nancy, à Paris comme à Toulouse et Bordeaux, 29, 30 à Marseille et 32 degrés à Nîmes.
Merci Laurent, à tout à l'heure 18h30 pour la météo des plages.
Le journal des sports.
C'est avec Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
3 semaines après leur départ de Bruxelles, les coureurs du Tour de France arrivent donc ce soir à Paris.
Oui, arrivée de ce magnifique Tour de France en nocturne sur les Champs-Élysées, un peu après 21h, les coureurs, le maillot jaune, Egan Bernal, viennent donc de partir de Rambouillet. On retrouve en direct sur la moto Europe 1, Marguerite Lefebvre. Décrivez-nous, Marguerite, un peu l'ambiance autour de vous et autour du maillot jaune.
Ah ouais, une ambiance extrêmement festive avec beaucoup, beaucoup de Colombiens ici à Rambouillet pour fêter Egan Bernal qui est en ce moment en tête de peloton avec les autres maillots distinctifs. Peter Sagan, le maillot vert. Romain Bardet, le maillot à points. Et il y a un coureur qui s'est invité sur la photo de famille. C'est assez sympa. C'est Julien Alaphilippe, le français, lui, qui a porté le maillot jaune pendant 14 jours. Il est en grande discussion avec Egan Bernal. Voilà, tous les coureurs sont partis. Ils sont en train de défiler dans Rambouillet avant le départ réel de cette dernière étape du Tour qui sera donnée dans quelques minutes.
Merci Marguerite Lefebvre et à toute l'équipe d'Europe 1 aussi qui a réalisé ce Tour de France, qui a suivi pour nous ce Tour de France absolument magnifique. Ce n'est pas encore terminé pour Europe 1 et pour vous, puisque vous avez rendez-vous à 19h avec Axel May pour le dernier Club Tour de l'année 2019 avec notre consultant Thomas Vauclair, évidemment, Patrick Chassé. On passera un petit coup de fil à Bernard Hinault, le dernier vainqueur français de ce Tour de France, et vous entendrez aussi, bien sûr, celui qui a gagné le cœur des Français, c'est Julien Alaphilippe.
Europe 1. Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
Le sport, c'est également l'athlétisme. À 2 mois des Mondiaux de Doha, attention au phénomène américain Kendricks.
Oui, le champion du monde en titre de saut à la perche est dans la forme de sa vie. À 2 mois, aux États-Unis, Sam Kendricks vient d'effacer une barre à 6m06. C'est la deuxième meilleure performance de tous les temps en plein air, derrière les 6m14 du légendaire Bouka. Et ça, c'est énorme, estime notre consultant et ancien entraîneur des perchistes français, Jean-Claude Perrin.
Je suis admiratif devant ce garçon pour 2 choses. 6m06, ça ne se fait pas tous les après-midi, même avec une échelle. Et en plus, c'est un garçon très attachant, il a 26 ans, c'est un métronome. Il met la barre et tous les jours, il est capable de franchir des hauteurs entre 5,50 et puis 5,90. Et puis, au deuxième essai, il passe 6m06. Il est véritablement fabuleux. Je l'ai vu à Lausanne il y a quelques semaines. Il avait fait 5,95. C'est véritablement un type épatant.
Et il y a quelques minutes à Saint-Etienne, le perchiste Renaud Lavilloni a remporté son 9e titre de champion de France en plein air. Le recordman du monde de la discipline a réalisé sa meilleure performance de la saison en 5m85. Christophe Lemaître a réalisé les minima sur le demi-tour de piste. Mais en finale, il s'est lourdement incliné, terminant 6e en 20 secondes 90, loin derrière le nouveau champion de France du 200m, Mahamadou Fall.
Clap de fin pour les mondiaux de natation encore. Corée du Sud.
Seulement 2 médailles de bronze pour les Bleus en grand bassin avec le relais 4x100 mixte et le 800 mètres de David Aubry. C'est moins bien qu'il y a 2 ans, les Français avaient gagné 2 médailles, certes, mais il y avait 7 médailles d'or avec le 50 mètres de Camille Lacour. Des mondiaux écrasés par la star américaine Caleb Dressel, l'américain a remporté 8 médailles, exploit immense puisque même la légende Michael Phelps n'avait pas réalisé une telle performance. L'homme le plus médaillé des Jeux s'était arrêté à 7 médailles à Melbourne en 2007.
Et puis Cyril, la Formule 1, Max Verstappen remporte un Grand Prix d'Allemagne complètement fou.
Oui, la pluie s'est invitée, les sorties de piste et abandons se sont multipliés. Le néerlandais Verstappen, parti en deuxième position, remporte le Grand Prix devant l'allemand Sébastien Vettel, qui a réalisé une belle remontée. Le leader du championnat du monde, Lewis Hamilton, termine 11e après un tête-à-queue. Et puis le finlandais Bottas sur Mercedes et le monégasque Leclerc sur l'autre Ferrari ont abandonné.
C'était le journal des sports de Cyril de la Morinerie. Merci Cyril.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant. Le Tour de France, on l'a dit, passionnant, exaltant, mais le dopage dans tout ça. On en parle avec Antoine Vaillé, ancien entraîneur de Festina, grand pourfendeur du dopage désormais.
Sébastien Guyot sur Europe 1. Europe 1, 18h15, à la suite du Grand Journal, c'est avec vous Sébastien Guyot. Et votre premier invité ce soir, c'est Antoine Vaillé, ancien entraîneur de l'équipe Festina.
Bonsoir Antoine Vaillé.
Bonsoir.
Le Tour de France arrive donc ce soir sur les Champs-Élysées en nocturne. On a rêvé de voir le sacre d'un Français 34 ans après Bernard Hinault. Ce ne sera pas encore pour cette fois, mais quel Tour 2019 tout de même.
Oui, c'était un tour magnifique dans le scénario. On a un parcours qui était pas mal aussi. Et puis, je pense que ça devient de plus en plus un spectacle sportif, on va dire. C'est un petit peu plus sportif et moins faussé, justement, par la tricherie. Un petit peu moins, on va dire. Et ça donne un peu plus de piment et d'enjeu. C'est ce que je dis depuis longtemps. À partir du moment où on aura éradiqué les tricheurs, ce tour au niveau du public qui devient de plus en plus critique sera de plus en plus formidable.
Un petit peu moins, vous dites, on va y revenir dans le détail. Vous êtes l'ancien entraîneur de l'équipe Festina, devenu le grand pourfendeur du dopage dans le cyclisme, monsieur propre pour les uns, chevalier blanc qui cherche à se faire de l'argent pour les autres. Toujours est-il que vous avez votre franc parler. Est-ce qu'on peut dire que
vous payez à peu près 2 millions d'euros non, pour venir, non, je crois.
c'est gratuit, ça, non, heureusement.
Je ne savais pas.
vous aviez dit récemment dans le Monde où vous écrivez des chroniques qu'on n'était plus dans un monde de toxico.
Ils sont payés 3 millions d'euros.
Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'était un Tour de France propre à Leclerc?
Mais propre à Leclerc, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis on sait très bien, si on ne prend que les faits, il y a une affaire, il y a 2 mois qui est sortie, l'affaire Aderlas qui concernait des skieurs et aussi des cyclistes. Et le coéquipier, par exemple, de Thibaut Pinot, qui a failli gagner le Tour, et ça aurait été très bien, je pense, qui s'appelait Predler, un Autrichien, a été pris dans la nasse, je veux dire. Et c'était pourtant le gendre idéal et le cycliste idéal, invité par des coureurs à leur mariage. Et voilà, donc on sait que le dopage existe, on sait que les micro-prises de sang, le sang est changé, on sait que les hormones de croissance on peut l'utiliser, on sait qu'on peut toujours utiliser des corticoïdes, et on sait aussi que ceux qui étaient là en 98 sont toujours là et mènent toujours les équipes, donc on peut pas dire qu'au niveau culturel, il y ait un bain, si vous voulez, qui soit complètement renouvelé. Ceci dit, il y a des coureurs qui font vraiment partie cette fois-ci d'une nouvelle génération et qui jouent le jeu.
Voilà. Thibaut Pinot par exemple.
Ben Thibaut, si on regarde son entourage, ses performances qu'on analyse nous depuis ses débuts, on trouve que Thibaut donne toutes les garanties, de marque extérieure et aussi de vie comme étant quelqu'un, oui, on peut le dire propre. Oui, effectivement, c'est dommage qu'il n'ait pas pu combattre jusqu'à la fin parce que tout le monde attendait ça. Je pense même qu'en interne dans la caravane, tout le monde avait envie que ce soit Pinot.
Et c'est le cas également de Julien Alaphilippe.
Bah pour Julien, il est dans une équipe moi qui personnellement ne me donne aucune garantie. Ses performances aussi, mes bodies, comme on dit, me font un petit peu peur parfois. Il a craqué sur la fin, c'est un petit peu réjouissant, on va dire. Mais je ne mettrai pas ma main à couper sur l'honnêteté de son entourage. Par exemple, il y a le docteur Van Mol, chez qui il est allé se reposer après le Pays Basque après une chute. Qui a quand même un CV et des casseroles dans cette équipe qui sont... Je ne comprends pas comment ce docteur puisse encore exercer auprès de coureurs cyclistes dans une équipe du World Tour, par exemple.
Il y a eu un début de polémique sur ce tour avec l'usage des cétones, en gros des corps fabriqués naturellement par le foie qui peuvent agir comme carburant pour les muscles. C'est un produit non réglementé aujourd'hui, donc pas considéré comme dopant officiellement. Julien Alaphilippe, par exemple, ne s'en cache pas. Avec son équipe Quick-Step, il en prend comme complément alimentaire. Vous en pensez quoi, vous, des cétones ?
Moi, je pense que les cétones font partie d'une gamme de produits qui ne sont pas considérés comme dopants pour l'instant, qui peuvent aider pas mal de gens pour certaines maladies et qui sont en cours de recherche, mais qui font partie de ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont utilisés. D'un point de vue éthique, ça peut être contestable, cette utilisation, et voilà, il y a pas mal de coureurs qui évoluent en zone grise avec des petits compléments de choses qui sont en zone rouge et qui passent au contrôle, puisque la lutte antidopage, on le sait, est là pour faire croire que ça fonctionne. Et voilà, les cétones, bon, tant que ça se cantonnerait à des cétones, il n'y aurait pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que des coureurs comme Pinot et comme quelques autres qui jouent le jeu vraiment à tous les niveaux arrivent, par rapport aux coureurs et par rapport aux athlètes qui sont en zone grise, on va dire, à les concurrencer un petit peu jusqu'à un certain point. Voilà.
Oh bah il l'a démontré même en gagnant le Tourmalet, et s'il n'avait pas eu cette blessure dans l'avant-dernière étape, il aurait pu peut-être prétendre au maillot jaune. D'ailleurs, cette blessure, vous l'expliquez comment, vous ?
Cette blessure, c'est peut-être une rupture. Je ne sais pas exactement le cause de sa blessure. C'est, je crois, une raison musculaire. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tout le monde. Vous savez, le titre de ma chronique demain pour le journal Le Monde où je travaille, c'est justement la question que vous me posez. C'est peut-on gagner le Tour sans être dopé ? Et je pense qu'avec Thibaut Pinot, on aurait eu la réponse. On ne l'a pas encore. On va peut-être falloir attendre l'année prochaine. Il n'y a pas que lui, mais je veux dire, moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu.
Ça veut dire que, à travers votre question, vous sous-entendez que celui qui a gagné le Tour ce soir est dopé ?
Ah, je sous-entends rien du tout par rapport à ça. Je sous-entends que quand on connaît les choses à peu près bien, moi en tant qu'expert, puis surtout auprès des coureurs qui sont eux-mêmes experts, Thibaut Pinot donnait toutes les garanties d'être un coureur transparent et non dopé. Les autres, ma foi, je ne peux pas vous donner les garanties qu'ils ne trichent pas, ni eux, ni leur équipe.
Oui, mais alors après, Egan Bernal, parce que c'est de lui dont je parlais, on sait que ses performances en altitude sont favorisées par le fait qu'il vienne de Colombie. Vous qui suivez, qui analysez sur la base des watts, ce que produisent les coureurs comme effort, vous avez relevé les temps d'ascension dans l'école. Ça donne quoi, notamment pour Bernal ?
Alors pour Bernal, c'est assez exceptionnel, mais c'est un coureur exceptionnel qui a des performances exceptionnelles depuis longtemps. Bernal n'est pas un inconnu, contrairement à Froome avant, c'est quelqu'un qui, dès ses débuts, a gagné le Tour de l'Avenir, par exemple, comme Warren Barguil, comme le petit Godu, qui pourrait gagner le Tour de France aussi. Donc c'est quelqu'un qui a un passé qui plane un petit peu pour lui. Ses performances, ceci dit, sont véritablement exceptionnelles. Alors on les interprète par le fait qu'il... sans doute est bien né en montagne, qu'il est habitué à l'altitude, et ce serait la raison pour laquelle il arriverait à pousser un nombre de watts, de 10 watts supérieurs aux autres. Il a des performances exceptionnelles qui sont dans un contexte tout de même inférieur à celui que j'ai connu en 98 ou même 10 ans plus tard. C'est-à-dire que ça va un petit peu mieux au niveau des performances.
Antoine Vaillé, en tout cas, Alaphilippe, Pinot, Bardet, qui sera maillot à poids de meilleur grimpeur ce soir. C'est tout de même le retour du panache à la française. On peut s'en réjouir ce soir.
Le retour du panache à la française, oui, qu'il soit français ou qu'il soit belge, le panache reste le panache. Hein. Vous savez, moi j'aime bien le panache belge aussi, hein, le panaché belge aussi.
Oui.
Et oui, mais c'est sûr que en Espagne, quand il y a des coureurs espagnols qui brillent, c'est fantastique. En Italie, quand il y a le Tour d'Italie et qu'il y a les Italiens qui brillent, c'est fantastique. Et je pense qu'en France, le Tour de France avait besoin que des Français marchent. Mais les Français, ce qu'il faut dire aussi... au regard du dopage, c'est que ça a été les premiers touchés après 98. C'est que, et pour changer les mentalités, il faut 20 ans, peut-être 30 ans, on en est à 20 ans, et que ces premiers touchés, parmi ces Français, je pense à Guillaume Martin qui est 12e, je pense à Godu qui est 13e, et à Barguil qui est 10e.
Oui, on en a 5 dans le top 15 cette année.
Ouais, on en a 5 dans le top 15, et je ne sais pas, Alaphilippe, il est belge, non, un petit peu, non
Son équipe.
Et, son équipe, oui, voilà. Il n'a pas été naturalisé. je pense que c'est quand même très bien. Et je pense que moi, ce que je disais, c'est qu'il y en avait 5 qui pouvaient rentrer dans le top 10. Ils sont dans le top 15. Donc, il y a peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont pas 5 dans le top 15. Et ils sont pas 5 dans le top 10 et 5 dans le top 15.
Quoi. En tout cas, on peut se réjouir qu'ils ne soient plus insultés sur les routes du Tour comme il y a quelques années, qu'on les applaudisse chaleureusement. On va rester sur cette image d'un Tour de France réussi. Merci Antoine Voyer d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Et merci à Thomas Roussel pour avoir assuré ce duplex. Je vous rappelle l'émission spéciale sur Europe 1 pour cette arrivée du Tour de France de 19h à 22h. Et avant cela, je recevrai Laurent-Éric Lelay, le patron des sports sur France Télévisions. Audience boostée par ce Tour de France 2019.
Europe 1.
Dans un instant, notre deuxième invité en duplex du Japon, Damien Véron, sa sœur Tiphaine, 37 ans, a disparu il y a un an. Il est sur place avec sa maman et garde toujours espoir de la retrouver vivante un an après.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Et à 18h28, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Marion Jorte.
Encore un peu de bouchon sur la route des vacances. La journée classée orange dans le sens des départs. Les principales difficultés ce soir sont sur l'autoroute A7 en direction de la Méditerranée et à la sortie des grandes villes. L'un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, placé en garde à vue ce matin à La Roche-sur-Yon. Il est soupçonné de violence conjugale. Ce sont les personnes qui les recevaient en vacances qui ont prévenu les secours après une violente altercation avec sa compagne. Et puis à Paris, un automobiliste violemment agressé par une cinquantaine de Gilets jaunes en marge d'une manifestation hier soir. Il tentait de retirer un vélo lancé sur la voie publique. Trois personnes ont été placées en garde à vue pour violences aggravées. L'Union européenne et les États-Unis condamnent l'arrestation de plus de 1400 manifestants hier à Moscou lors d'un rassemblement pour exiger des élections locales libres en septembre. Washington dénonce un usage disproportionné de la force policière et Bruxelles une grave atteinte à la liberté d'expression. Un 9e titre de champion de France pour Renaud Lavillenie. Le recordman du saut à la perche s'est illustré en franchissant une barre à 5,85 m. C'est son meilleur résultat de la saison. Et puis en Formule 1, le néerlandais Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Allemagne. Le favori leader du championnat du monde, Lewis Hamilton, ne termine qu'à la 11e place avec une sortie de piste.
Merci Marion Jorte. Et l'actualité ce soir, c'est bien sûr également la dernière étape du Tour de France. Christophe Laméard. Christophe, sur la ligne d'arrivée des Champs-Élysées.
Effectivement, et déjà 10 km de parcouru à petit trot, petit train. On rejoint tout de suite sur la moto Europe 1 Marc-Éric Lefèvre. Bon, les grandes manœuvres n'ont pas encore commencé, on savoure pour l'instant.
Ah oui, clairement, là c'est parti sur un rythme extrêmement calme. Les coureurs ont plutôt l'intention de profiter après sans doute les deux dernières étapes assez chaotiques dans les Alpes. Ici on profite, il fait beau, il y a du public au bord de la route. Donc pour l'instant, le peloton est toujours groupé ici.
Voilà, sans doute que les premières attaques viendront à l'entrée dans Paris d'ici une soixantaine de kilomètres. Mais pour l'instant, effectivement, on a un peloton qui roule groupé. On a vu Egan Bernal discuter longuement avec Julien Alaphilippe. On a vu Peter Sagan aussi aux avant-postes. On a vu, bien sûr, Romain Bardet avec son maillot à pois. Et donc, pour l'instant, peloton groupé à 117 kilomètres du terme de cette étape.
Merci Christophe Lamarre. Et on suit cette dernière étape jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1.
Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
On passe à la météo des plages avec vous, Laurent Cabrol. Laurent, c'est un lundi au soleil qui nous attend, sauf en Bretagne.
Ah, c'est une journée dans l'ensemble assez ensoleillée, excepté sur les côtes qui vont de Brest à La Rochelle, sur les côtes atlantiques, entre Brest et La Rochelle, où nous aurons quelques averses avec des rafales de vent assez soutenues. Ce sera vraiment un temps pas très agréable, notamment sur le Finistère, où là, nous aurons des rafales de vent jusqu'à 60-80 km/h. Température sur les plages 22-24. Dans l'eau, 20 à 21 degrés. Mais entre La Rochelle et Biarritz, sur les côtes atlantiques, toujours du soleil, avec une valeur en bord de mer de 26 à 27 degrés, et dans l'eau, entre 21 et 22. Voyons maintenant les côtes de la Manche et de la mer du Nord, entre Brest et Saint-Malo, sur ces côtes de la Manche, un temps d'averse, 23 à 24 degrés, 17 à 20 degrés dans l'eau, et sur la région de Saint-Malo, une petite poche d'air chaud avec 29 degrés. Entre le Cotentin et Dunkerque, donc sur la Normandie, la Picardie, etc. Nous aurons là du soleil, 22-25 degrés, 19 à 20 degrés température de la baignade. Enfin en Méditerranée et en Corse, il fera beau, du vent marin, température 28 à 30 degrés et des températures de l'eau entre 22 et 25. Voilà pour une journée qui s'annonce vraiment sympathique sur les plages, excepté, nous l'avons vu, sur le Finistère.
Fort agréable quand même. Merci Laurent Cabrol.
Europe 1, 18h33, Sébastien Guyot, c'est l'heure de votre deuxième invité de ce soir.
Et vous connaissez peut-être son nom, Tiphaine Véron, cette Française de 37 ans, épileptique, qui a disparu au Japon il y a un an tout juste. Elle était arrivée le 27 juillet à Nikko, une ville très touristique entourée de bois et de rivières. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 29 juillet 2018. Et nous sommes en ligne ce soir du Japon avec le frère de Tiphaine. Bonsoir Damien Véron.
Bonsoir.
Vous avez décidé de retourner sur place avec votre maman un an après. Pour quelle raison ?
Alors oui, donc ça fait déjà un an donc, que Tiphaine a disparu. On voulait, donc un an après sa disparition, se remettre dans les traces de Tiphaine lorsqu'elle était arrivée à Nikko, puis aussi rencontrer les gens de Nikko qui nous soutiennent depuis le début.
Et vous avez organisé ce matin un rassemblement à Nikko justement. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu ?
Tout à fait. Depuis le début, les gens de Nikko sont formidables. On a un vrai soutien de leur part. Donc oui, ils sont venus au rassemblement. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. C'était suivi d'une marche. Donc c'est quelque chose qui est moins habituel au Japon. Cependant, ils ont quand même fait l'effort de venir. Et puis surtout, le long de la route, les commerçants nous ont soutenus en criant ou en disant « Gambate », ce qui veut dire « courage ». Donc oui, ça nous fait chaud au cœur qu'ils soient avec nous.
Vous êtes arrivé mardi au Japon et vous allez passer 10 jours au total pour rencontrer également le personnel de l'ambassade, des policiers japonais, des experts privés. Un an après, il n'y a toujours aucun indice expliquant la disparition de votre sœur, Tiphaine. Qu'attendez-vous de toutes ces rencontres ?
Déjà, on remercie la police pour ça, parce que pour eux, alors la partie civile n'existe pas au Japon. Donc le fait que la police nous reçoive depuis le début et qu'il y ait ces réunions, déjà, c'est une excellente chose. Cependant, effectivement, c'est pour ça que le juge français a une instruction qui a été ouverte en France, puisqu'on aimerait savoir, et ça, on n'est toujours pas en mesure de savoir depuis un an, ce qui a été fait concrètement en termes d'enquête depuis le début.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses ?
Caché, je pense pas. Le problème, c'est que le Japon est un pays souverain et il n'y a pas eu, c'est en train d'arriver, j'espère, mais un dialogue plutôt assez clair avec les autorités françaises. Le juge, lorsque l'instruction a été ouverte au mois d'octobre, avait déjà demandé justement que des éléments de l'enquête lui soient envoyés pour qu'elle puisse comprendre quelles sont les investigations menées à Nikko. Et en fait, il a fallu que ce soit des officiers français fin juin qui se déplacent à Nikko pour enfin avoir des éléments du dossier. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une discussion entre policiers français avec leurs homologues japonais donc à Nikko. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle. Cependant, il a quand même fallu plus d'un an pour avoir des premiers éléments, des éléments qui vont demander d'être 2 mois avant d'être traduits. Donc voilà, donc j'espère que début septembre, on aura enfin quelques éléments de réponse.
Damien Véron, Emmanuel Macron était au Japon, comme vous en ce moment, mais c'était au mois de juin. Le chef de l'État avait affirmé à cette occasion qu'il n'y avait aucune trace, aucun soupçon. Est-ce que vous êtes en contact avec l'Élysée ou le Quai d'Orsay et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités françaises ?
Alors évidemment, l'Élysée, depuis le début, est vraiment à nos côtés. On sait que lorsqu'on a été rencontrer la conseillère d'Asie d'Emmanuel Macron, on sait que c'est un dossier qu'il traite personnellement, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment au courant, et puis on sait qu'on a son soutien. Emmanuel Macron a un rôle essentiel, évidemment, puisque c'est en discutant avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais, qu'il peut y avoir un dialogue et qui peut permettre de faciliter des échanges, en tout cas l'envoi des policiers français là-bas. Après, le chef, on peut dire, entre guillemets, c'est le juge d'instruction. Donc on espère que le juge d'instruction en France enverra des policiers. Il n'y a pas de raison, puisque ça se passe très bien, ça s'est très bien passé en juin, des policiers au Japon. Et puis évidemment, là, la diplomatie et l'Élysée ont un rôle important dans ce domaine-là. Mais il nous soutient depuis le début et effectivement, on le remercie, parce que sans son intervention et sans son aide, les choses sont vraiment très difficiles.
Alors je le disais, Tiphaine, votre sœur est épileptique. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu avoir un problème de santé ?
Je ne pense pas. Puisqu'effectivement, donc elle est épileptique, sauf que si vous voulez, elle a eu quelques années auparavant des difficultés par rapport à ses médicaments, ce qui l'a fragilisé beaucoup. Cependant, depuis plus d'un an, même 2 ans, on peut dire, elle était vraiment stabilisée et avait vraiment le traitement adéquat. Donc je ne pense pas, non, qu'elle ait pu faire un malaise. Et puis, elle est extrêmement raisonnable, elle a été venue à Nikko pour faire les musées, donc je ne pense pas non plus qu'elle ait pu avoir un accident ou qu'elle soit partie dans la montagne, par exemple.
Une dernière question, Damien Véron. En mai dernier, vous étiez retourné avec votre sœur Sybille, votre autre sœur, au Japon, avec des secouristes spécialisés, mener des recherches sur le terrain escapé. Aucun indice retrouvé, plus le temps passe. Dans quel état d'esprit vous êtes ?
C'était, c'est un petit peu le problème, c'est que on a demandé beaucoup de choses. On a demandé à la police japonaise qu'il y ait des recherches sur le terrain, il n'y en a pas eu. Ils ont été faits très peu. Donc effectivement, on les a menés nous-mêmes, notamment les recherches en rivière. Le fait de venir avec des spécialistes, finalement, et de ne rien trouver, c'était une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'elle n'est pas trouvée dans la rivière. Donc nous, on garde espoir et on espère qu'elle a envie quelque part et qu'on puisse la retrouver.
Merci Damien Véron d'avoir témoigné depuis le Japon où vous êtes avec votre maman un an après la disparition de votre sœur Tiphaine Véron. Et je rappelle que vous avez lancé une cagnotte en ligne pour vous aider à couvrir les coûts de chaque mission menée au Japon.
Je vous remercie. Merci beaucoup.
Europe 1. Europe 1, 18h38, dans un instant, la chronique média.
Et le Tour de France qui booste les audiences de France Télévisions. Le patron des sports, Laurent-Éric Lelay, viendra nous en parler. Et il nous dira d'ailleurs si le service public peut encore rivaliser avec les chaînes privées pour retransmettre les grands événements sportifs. Alors qu'Amazon s'apprête à diffuser une partie de Roland-Garros. Ça tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Europe 1, 18h39, c'est l'heure de l'invité média. Tour de France oblige, c'est le patron des sports, Laurent-Éric Lelay, qui est avec vous ce soir.
Laurent-Éric Lelay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des sports de France Télévisions. Merci d'être avec nous ce soir en studio sur Europe 1. Et j'imagine un patron heureux ce soir au regard des audiences du Tour de France.
Oui, au regard des audiences du Tour de France qui sont exceptionnelles. Plus de 35 millions de Français auront regardé le Tour de France sur les antennes de France Télévisions, mais plus que ça, c'est heureux de ce Tour de France qui a probablement dépassé nos rêves les plus fous en termes de performance des Français, en termes d'émotion, en termes de suspense, en termes d'imprévus, y compris au niveau de la météo, puisque les deux dernières étapes de montagne ont connu des soubresauts.
On a tout eu sur ce tour et on a été ravis de le suivre sur Europe 1 également. Mais chez vous, vous avez eu des pics d'audience, je crois, 7 millions de téléspectateurs, notamment avec la victoire de Thibaut Pinot. Ce soir, l'arrivée est en prime. C'est un choix de France 2, c'est un choix des organisateurs pour booster, là encore, l'audience.
C'est toujours un choix des organisateurs. C'est eux qui décident quand a lieu leur épreuve. C'est vrai que quand c'est possible, on sait que c'est parfois possible, pas tous les ans, mais avoir une arrivée en prime time nous pense être quelque chose d'assez intéressant parce que c'est la possibilité d'aller toucher un autre public qui est plus facilement devant sa télévision à cette heure-là que durant l'après-midi. Donc c'est une occasion supplémentaire de montrer le Tour de France aux Français.
Et c'est la seconde fois seulement hein, depuis dans l'histoire du Tour. Il y avait une arrivée en nocturne en 2013, hein, si je me souviens bien.
De mémoire, je crois qu'il y a eu un prologue également en avant-soirée ou peut-être en soirée.
Mais pour
soirée,
l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est la seconde fois. Comment vous expliquez le regain d'intérêt des téléspectateurs pour le cyclisme ? C'est le fait qu'un Français ait eu le maillot jaune pendant 14 jours essentiellement ?
Bon, le Tour de France fait toujours de l'audience. Il en a fait les dernières, les années précédentes, et ça reste d'abord un événement exceptionnel et fortement regardé par l'ensemble des Français. C'est vrai que les audiences repartent significativement à la hausse, et probablement les performances de nos Français, les nombreux jours en maillot jaune de Julien Alaphilippe, la victoire phénoménale de Thibaut Pinot, ou le comportement de, je ne vais pas tous les citer, mais... Warren Barguil,
Romain Bardet qui va finir avec le maillot à pois ce soir.
Exactement, Romain Bardet, Tony Gallopin qui était dans de nombreuses échappées comme Johan Ofredo. Il s'est passé vraiment des choses intéressantes et on a senti que les Français avaient cœur de se montrer.
Alors France Télévisions, historiquement, c'est la chaîne du Tour de France et pourtant c'est pas rentable pour vous. Je crois que vous dépensez 25 millions pour les droits et les recettes c'est 9 millions, c'est à peu près ça l'ordre d'idée.
On communique pas sur les chiffres. C'est un spectacle sportif qu'on offre aux Français depuis longtemps. Je crois que j'ai toujours connu le Tour de France sur les antennes de France Télévisions. Vous savez que France Télévisions est financée par la redevance et par la publicité. Les chiffres que vous citez concernent les recettes publicitaires. Donc après, il faudrait dans la redevance se dire combien est affecté au Tour de France ou pas, qui est un exercice qui
Mais si je vous parle de ça, Laurent-Éric Lelay, c'est que la bataille autour du sport, la bataille des droits de retransmission fait rage dans tous les sports. C'est le cas notamment pour le rugby. Vous étiez la chaîne du rugby. Alors, il y a le tournoi Destination toujours, mais la Coupe du Monde, le Mondial, en septembre prochain, ce sera sur TF1 et RMC. Et d'ailleurs, vous avez même revendu un match amical. Pourquoi ?
La Coupe du Monde de rugby est sur TF1 depuis nombreuses éditions déjà. C'est vrai que TF1 nous a demandé si ça nous intéressait de leur revendre un match qui est le dernier match France-Italie, le dernier match de préparation pour cette Coupe du Monde. On a fait en interne un arbitrage financier. Vous savez que le groupe France Télévisions doit faire aussi un certain nombre d'économies. C'était l'occasion de faire un certain nombre d'économies et cet arbitrage me paraissait tout à fait logique.
Alors vous avez bataillé également pour conserver les droits sur Roland-Garros. Mmh. Quand même, le tennis en France, c'est important. De 2021...
Avec Europe 1 qui est présent sur Roland-Garros.
Bien sûr, radio officielle du tournoi. Vous avez raison de le souligner. Delphine Ernotte avait dénoncé la façon très cavalière, avait-elle dit, de traiter un partenaire de 30 ans, car votre première offre à la Fédération française n'était pas suffisante. Finalement, vous avez mis une offre supplémentaire de combien, vu que vous ne voulez pas communiquer sur les chiffres, vous allez nous le dire.
Non, traditionnellement, on ne parle pas des chiffres. D'ailleurs, je crois qu'en répond à l'appel d'offres, on s'engage avec cette obligation de confidentialité. Roland Garros, sur le service public, là aussi, c'est un partenariat de 31 ans. Et nous, on est partenaire du tournoi, comme le tournoi est également partenaire de France Télévisions. Et au moment de renouveler les droits, il y a forcément des moments, on va dire, de friction. Le vendeur cherchant à avoir le meilleur accord financier et d'exposition possible, et l'acheteur essayant de renouveler ses accords dans les meilleures conditions possibles. Donc le temps qu'on trouve un équilibre qui a été trouvé.
Donc vous n'êtes plus fâché avec le président de la FFT ?
Nous n'avons jamais été fâchés avec le président de la FFT.
D'accord. En revanche, vous allez devoir partager la retransmission, et c'est une première en France, avec Amazon, une plateforme VOD. Mmh. Ça inquiète le public d'avoir des plateformes VOD qui deviennent des chaînes qui retransmettent le sport en France ? Vous, ça vous inquiète ?
Bah, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est vrai que Amazon, qui est un des GAFA, se positionne sur du sport en direct. Donc il faut comprendre quelle est leur stratégie à travers ça. Est-ce que c'est des exemples qui vont se multiplier, ou est-ce que ce sont que des actions marketing qui n'ont vocation qu'à alimenter leur immense déjà base de données de clients fidèles ? On va voir, mais c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau et ça va être très intéressant à suivre dans les années qui viennent.
Alors, si je me souviens bien, ils n'auront que des matchs après 20h, Amazon, l'année, à partir de 2021.
Voilà, France Télévisions va diffuser tout le tournoi, à l'exception de 10 matchs en soirée, et des matchs qui vont se dérouler sur le court Simone Mathieu.
Est-ce qu'il y a un danger à vouloir privatiser le sport à la télévision, selon vous ?
Je ne sais pas ce que veut dire le terme privatiser. Ce qui est sûr, ma conviction profonde, c'est que le sport, qui est une valeur universelle, doit être vu, ou pouvoir être vu, par tous. Pas toujours en gratuit. On voit bien que dans les équilibres économiques, il faut aussi parfois qu'il y ait des plateformes payantes qui soient là pour pouvoir financer le sport. Mais il faut s'assurer que le sport puisse être vu par tous. Les chiffres exceptionnels qu'on fait sur le Tour de France, qu'on est capable de faire sur des matchs de rugby, ou que TF1 vient de faire sur
la Coupe du Monde de foot féminine,
montrent bien que l'exposition sur les très grandes chaînes généralistes est encore quelque chose de rare et d'important.
Un dernier mot de Stade 2, émission historique du service public, tous les dimanches soirs sur la 2 depuis 1975, donc ça fait quoi, 44 ans, et désormais à la rentrée sur la 3, c'est le début de la fin ?
Non, c'est un renouveau. C'est l'occasion de pouvoir bénéficier d'un créneau à 20h. Pendant une heure, nous allons de 20h à 21h proposer aux Français du sport, de l'actualité, des résultats sportifs, des reportages, des histoires de sport. Je pense que c'est une opportunité magnifique pour Stade 2.
Et vous garderez le titre ?
Je pense, oui.
Ce n'est pas sûr.
Si,
c'est sûr. Bon, il y aura bien Stade 2 donc à la rentrée. Mais sur la 3, cette fois-ci, en tous les cas, d'ici là, bonne dernière étape du Tour de France. On va suivre ça sur Europe 1 et sur France Télévisions avec des moyens techniques incroyables. On a toujours de très belles images.
Toujours très belles images.
Que ce soit en montagne ou à Paris.
Ça fait partie du spectacle.
Merci Laurent Éric Lelay d'avoir été sur Europe 1 ce soir, patron des sports sur France Télévisions. Et bonne fin de Tour de France.
Merci.
Europe 1. 18h47, le grand journal du soir, Sébastien Guyot.
Et dans un instant, vos régions sur un plateau, votre rendez-vous culinaire avec Marion Sauveur. On poursuit notre tour de France des régions. Allez, je vous donne un indice. Si je vous dis au lit, ce n'est pas une injonction et ce n'est pas non plus le comparse de Big Flo. Vous avez deviné ? Allez, à tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1. Sébastien Guyot sur Europe 1.
18h51, la suite du Grand Journal du Soir avec vous Sébastien Guyot.
Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir à tous.
Vos régions sur un plateau chaque week-end, vous nous faites découvrir les spécialités culinaires de nos belles régions. Et ce soir, on va où ?
Ah, sous les pins.
Sous les pins provençaux ?
Ah oui ! Et l'une des spécialités gastronomiques provençales, c'est l'aïoli. Alors l'aïoli, c'est comme le dit son nom, l'association de l'ail et de l'oli. Alors l'oli, c'est l'huile en provençal. Et on est dans le sud, on parle bien sûr de l'huile d'olive. Alors l'aïoli est une sauce froide qui a un bon goût d'ail. Elle se mange à l'apéritif avec des légumes crus, en accompagnement d'une viande grillée au barbecue ou d'un poisson au courbouillon. Elle va donner en fait du caractère au plat. Et même si on mange l'aïoli à toutes les sauces en Provence, il n'est pas né en France. C'est ce que m'a expliqué le cuisinier itinérant et grand spécialiste de la cuisine méditerranéenne, Emmanuel Perraudin.
C'est une recette méditerranéenne. On en trouve les premières traces en fait en Égypte. Ce fait de monter l'ail avec un corps gras, l'amande en l'occurrence. Et on va retrouver ces recettes à travers tout le bassin méditerranéen. Celui qui va faire le succès de l'aïoli, c'est Frédéric Mistral. Parce que Frédéric Mistral, au milieu du 19e siècle, il voulait définir en fait la culture provençale. Mistral va donc fonder un journal en provençal qui va s'appeler l'aïoli. Et donc il va faire de l'aïoli le symbole de la convivialité provençale. Avec l'huile d'olive évidemment, alors que jusqu'au début du 19e siècle, on montait l'ail à l'amande, comme le font aussi les Espagnols aujourd'hui. On ne mettait quasiment pas d'huile dedans, voire pas du tout. L'huile servait à faire le savon ou il servait aux éclairages.
Alors comment on réalise un aïoli ? Je suis sûr qu'en ce moment, il y a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui sont en train de prendre l'apéro, qui sont en train de prendre de l'aïoli. Simplement avec de l'ail et de l'huile d'olive, c'est tout ?
Alors ça, c'est la recette traditionnelle, avec une pointe de sel hein, tout de même. Et au pilon, ça c'est important dans un mortier. Mais attention, l'aïoli est très très difficile à monter puisque c'est une émulsion. Un corps gras, l'huile d'olive, que l'on mélange avec un autre liquide, le jus de l'ail, et qui ne s'associe pas normalement ensemble. Alors on a tendance à ajouter un jaune d'œuf pour aider l'émulsion à prendre. Comme d'ailleurs le grand chef du début du XXe siècle, Auguste Escoffier. Alors l'idéal, c'est déjà d'avoir ces ingrédients à la même température pour réussir. J'ai demandé bien sûr à Emmanuel Perraudin ses astuces pour réaliser un aïoli. Écoutez.
On l'écrase, on ne hache pas l'ail. On l'écrase pour en exprimer le jus. Et c'est en exprimant le jus en fait, de cet ail qu'on va avoir cette capacité émulsifiante de cet aromate. Mais c'est extrêmement simple. En fait, vous prenez votre gousse d'ail avec le plat de votre couteau. Et ensuite, avec la lame, vous l'appuyez complètement en faisant revenir la lame vers vous. Et vous allez voir que le jus s'exprime et que votre ail s'écrase complètement. Et à la fin seulement, vous pouvez mettre des coups de hachoir, mais une fois que l'ail est vraiment correctement écrasé. Et après, on rajoute l'œuf. Le sel, on mélange au fouet à ce moment-là, si jamais vous n'avez pas de pilon. D'abord, on écrase. Ensuite, on tourne. Et délicatement, une fois que tout est bien mélangé, on rajoute l'huile petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, ça peut se rater. Donc, à ce moment-là, on reprend un peu d'ail, un peu d'œuf et on verse progressivement l'appareil raté dessus pour le remonter. Ou on peut essayer de rajouter un petit peu d'eau. Ça peut marcher aussi.
Et puis, c'est rassurant de se dire que ça peut se rater.
Oui, ça peut se rater, mais ça peut se rattraper surtout. C'est ça qui est rassurant. Alors, l'aïoli, c'est aussi un plat complet. C'est un plat diététique qui réunit toutes les saveurs et les parfums de la Provence. Il est généralement composé de légumes cuits à la vapeur, de poissons, mais aussi d'escargots et surtout de cette fameuse sauce aïoli. Mmh. Mais à chacun, chaque famille, sa recette.
Alors, on va voir la recette d'un chef sur Europe 1 qui revisite la recette traditionnelle comme chaque week-end avec vous, Marion Sauveur. Bonsoir, Colline Folquier.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous de Marseille. Merci. Vous êtes la chef de signature dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne. Alors vous mettez à l'honneur les produits du terroir méditerranéen et l'un de vos plats de signature, c'est l'aïoli. Vous l'aviez d'ailleurs réalisé, on s'en souvient, lors de votre participation à l'émission Top Chef. Vous réalisez vous une timbale de légumes.
Exactement. En fait, c'est un plat que du coup j'ai créé en 2016. Pour le quart de finale de l'émission. Et en fait, le but, c'était vraiment, enfin, mon but à moi, c'était vraiment de retranscrire tous les goûts du fameux aïoli qu'on connaît tous. Hein, dans le sud, le vendredi, c'est aïoli. Donc, avec le poisson vapeur et les légumes vapeur. Et cette fameuse sauce, donc, à l'ail. Et de garder vraiment le goût, mais de retransformer par la forme. Donc, en fait, c'est une tabale de petits cubes de légumes qui est liée avec une farce fine, enfin une mousseline de poisson. Et ensuite, à l'intérieur, il y a une farce avec le cabillaud. Donc, normalement, c'est de la morue dessalée ou alors du cabillaud. C'est un peu la même chose qu'on utilise dans l'aïoli. Et ensuite, bien évidemment, la sauce aïoli. Moi, je mets du safran, un petit peu de zeste d'orange, pas mal d'ail.
Et c'est très très joli hein, parce que cette timbale, ce sont en fait des petits cubes de légumes très colorés. Hein.
Voilà, oui, c'est vraiment la couleur, la simplicité du produit. Donc c'est vraiment, tous ces légumes sont cuits vapeur comme dans la recette ancestrale, le poisson également, et c'est uniquement de la mise en forme pour le rendre encore plus joli et gourmand, on va dire.
Et pour la gourmandise, justement, vous réalisez une sorte de chips de pain hein, sur le dessus. Hein.
Une petite chips de pain, oui, une chips de pain complet. Et puis des petits copeaux de légumes, parce que le cru ramène toujours beaucoup de fraîcheur dans un plat. Bon, là, c'est un plat qui est servi froid. Hein. L'aïoli se mange éventuellement chaud dans la recette de traditionnelle. Mais là, c'est servi froid avec la petite sauce, avec des pommes de sauce et une glace à la rouille.
Et on en mange à toutes les saisons?
Alors, on en mange à toutes les saisons. Moi, là, j'ai un aïoli d'été, en gros, et un aïoli d'hiver. C'est un peu compliqué de garder les mêmes légumes l'été comme l'hiver. Donc, je le retranscris avec les légumes d'hiver, donc principalement de la betterave et des carottes. Mais je préfère l'aïoli d'été.
Mais c'est le bon moment, en tout cas. Merci, merci beaucoup, Colline Folquier.
Merci
et on
vous.
Retrouve votre aïoli donc, dans votre restaurant Signature à Marseille.
Et le jeudi 8 août, la confrérie des chevaliers de l'AIS s'installera au restaurant éphémère rue de la République à Marseille. Vous pourrez notamment déguster un aïoli géant. Toutes les informations sont sur le site de Marseille Provence Gastronomie 2019, mpg2019.com.
Un aïoli géant, ça promet. Merci Marion et on vous retrouve bien sûr samedi prochain. On ira où ?
En Auvergne.
Merci Marion, très bonne soirée. Axel May, vous êtes là ? Dans un instant, ça va être cette soirée spéciale sur Europe 1 consacrée au Tour de France. La dernière étape, bien sûr, qui est en cours, qu'on suit en direct sur Europe 1 jusqu'à 22h avec tous vos invités. Axel, on vous a retrouvé ?
Ah oui, on va retrouver, moi je suis là. On va avoir...
vous entendez pas.
Ah, parce que je vous écoutais, j'étais tout ouïe. On va avoir une cycliste, Evita Music, qui est cycliste professionnelle. On va avoir Franck Alaphilippe, l'entraîneur de Julien Alaphilippe. On va avoir un ami de Julien Alaphilippe, le papa de Romain Bardet. On devrait avoir aussi Bernard Hinault, il y aura Patrick Chassé, bien sûr. Beaucoup d'invités pour parler du bilan des Français, de qui est vraiment Bernal. Egan Bernal, le Colombien vainqueur du Tour de France. Et puis évidemment, on va suivre, vous le disiez, l'étape du jour qui va arriver au sprint. On se demande, est-ce que c'est Caleb Ewan, Dylan Groenewegen ou Christophe qui s'imposera? Bah ça sera réponse aux alentours de 21h15.
Très belle soirée en perspective sur Europe 1. Merci Axel May, ce sera juste après le journal de 19h. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Europe 1, il est 19h. Le journal, Marion Jort et Sébastien Guyot.
Bonsoir Marion.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
À la une de votre journal.
Les coureurs du Tour de France attendus sur les Champs-Élysées, le Colombien Egan Bernal sera en jaune. Notre édition spéciale à suivre juste après ce journal, jusqu'à 22h avec Axel May. Les agriculteurs inquiets, la canicule de ces derniers jours a asséché les sols. Vous entendrez la réaction de Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs. Et puis un chiffre alarmant concernant nos hôpitaux en France. Selon nos confrères du JDD, de nombreux établissements hospitaliers ne respectent pas les normes de sécurité incendie. Reportage à Marseille.
Europe 1. Cela fait donc 3 semaines qu'ils sont partis, les 155 rescapés du Tour de France, attendus ce soir sur les Champs-Élysées.
Le maillot jaune sur les épaules du Colombien Egan Bernal, 22 ans. Une arrivée nocturne prévue à 21h15, c'est rare. Les coureurs sont partis à 18h de Rambouillet au sud-ouest de Paris. Christophe Lamarre, vous êtes déjà prêt sur la ligne d'arrivée. Le peloton n'est pas encore entré dans Paris.
Oui, il en est loin parce que pour l'instant, on file un train de sénateurs. On ne se presse pas, on savoure bien évidemment ces 3 semaines de course et surtout on savoure l'idée d'arriver enfin à Paris. On va tout de suite prendre la direction évidemment de la moto Europe 1 où se trouve Marguerite Lefebvre. Il me semble que vous n'êtes pas très loin de Saint-Rémy-les-Chevreuses ou en tout cas vous allez aborder la première petite difficulté de cette 21e et dernière étape.
Ouais, une côte de 4e catégorie, il y en aura 2 à passer successivement, mais vous le disiez, eh bien on y va très tranquillement. Hein. En 50 minutes, les coureurs n'ont même pas parcouru 30 km, c'est vous dire qu'on est là pour profiter essentiellement. Voilà, on est sur une étape quand même assez longue hein, pour une dernière étape du tour, 130 km. Donc là, les coureurs y vont progressivement. En tout cas, pour l'instant, c'est le champion de France, Warren Barguil, qui mène la danse, qui est en tête de peloton.
Ouais, bah, il faut bien montrer quand même ce maillot bleu, blanc, rouge hein, dont on sait que les coureurs sont toujours très fiers de le porter sur les routes du Tour de France. Voilà, 98 km de l'arrivée pour l'instant. Peloton groupé qui roule très, très
tranquillement.
Merci Christophe. Et tout de suite après ce journal, édition spéciale à vivre sur Europe 1 avec Axel May pour suivre en direct l'arrivée des coureurs. À Paris, trois gilets jaunes ont été mis en examen après s'en être violemment pris un automobiliste en marge d'une manifestation hier soir. L'automobiliste tentait de retirer un vélo lancé sur la voie publique lorsqu'il a été pris à partie par 50 manifestants. L'un des leaders des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, est également placé en garde à vue. Ce matin, il est soupçonné de violence conjugale. Ce sont les personnes qui hébergeaient le couple pour les vacances qui ont prévenu les secours après une violente altercation.
À la une également ce constat alarmant dressé par nos confrères du Journal du Dimanche.
De nombreux établissements hospitaliers ne respectent pas les normes de sécurité incendie. Selon le journal, il y aurait eu plus de 6400 avis défavorables sur près de 50 000 contrôles. À Paris, 20 bâtiments sur 370 seraient concernés par ce problème. C'est également le cas à l'hôpital de la Timone de Marseille, Stéphane Frangy.
Oui, dans ces deux immenses bâtiments qui sont accolés, 13 et 17 étages respectivement, 3000 personnes à l'intérieur, personnel et patients confondus, et ce rapport de sécurité est alarmant entre la présence de matériaux inflammables, l'absence de désenfumage ou encore des portes coupe-feu cassées ou bien encore bloquées. Situation qui est bien connue sur place, nous a confirmé un ancien chirurgien de la Timone joint par téléphone.
C'est un très vieux bâtiment qui est retouché un peu par endroit, par étage. Ce qui est fait, c'est vrai que ça fait plus souvent cache-misère qu'autre chose. Le problème aussi, c'est ce qui a été rénové. Ça s'est dégradé assez rapidement et que effectivement les portes coupe-feu partout dans la Timone, il y avait eu des portes qui marchaient plus, qui se rabattaient plus. Quiconque est allé à la Timone et a essayé de prendre l'ascenseur une fois, sait que c'est compliqué. Entre les pales, entre le nombre, c'est un souci. En cas d'utilisation urgente, je pense que ce serait un vrai problème. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais vu d'exercices d'évacuation, de choses comme ça sur la Timone. Mais c'est vrai que j'imagine mal que ça puisse bien se passer.
Un plan de modernisation, on le sait, est à l'étude. Les travaux seraient estimés aux alentours de 300 millions d'euros. Mais il manquerait 50 millions d'euros au budget pour pouvoir débuter ces chantiers.
Stéphane Frangy, l'un de nos correspondants à Marseille. Les nouvelles règles de l'assurance chômage publiées ce matin au journal officiel. Le gouvernement avait présenté sa réforme en juin. Il faudra donc avoir travaillé 4 mois sur les 24 derniers au lieu de 4 sur les 28 derniers pour avoir le droit à une allocation.
Et même 6 mois sur les 24 derniers mois.
L'alerte canicule est levée, plus aucun département n'est en vigilance orange, mais cela ne veut pas dire que l'épisode est terminé. La sécheresse qui sévit dans de nombreux territoires a aggravé l'assèchement des sols. 78 départements sont concernés par des restrictions d'eau et cela inquiète Samuel Vandal, président des jeunes agriculteurs. Il répondait aux questions de François Geffrier ce matin.
Beaucoup de conséquences. La première, entre autres, sur les éleveurs, avec un manque de fourrage terrible, donc un besoin de fourrage. Sur les viticulteurs, avec aussi une perte de production, une perte de qualité, l'ensemble de la production agricole qui est vraiment impactée. Donc aujourd'hui, on est en train de s'organiser, on s'organise pour pouvoir venir en aide des plus sinistrés. Alors entre autres, sur les éleveurs, pouvoir leur apporter du foin, de la paille.
Est-ce qu'il y a des situations de non-retour liées à cette sécheresse pour cette année, des récoltes perdues par exemple?
Oui, il y a certains endroits, alors pas que sur la sécheresse, on a vécu aussi énormément de grêle, qui entre autres en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis vraiment à mal toute l'arboriculture, la viticulture, donc il risque d'y avoir des situations de non-retour, je pense plus particulièrement aux jeunes qui se sont installés il n'y a pas si longtemps que ça, qui eux n'ont pas pu accumuler un peu de réserve, si je puis dire, pour faire face aux aléas. Il est important qu'en agriculture, on puisse avoir une vraie gestion des risques, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit météorologique, et qu'on puisse se protéger des différents aléas auxquels on est subi.
Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs, ce matin avec François Geffrier sur Europe 1.
Et on fait à présent un point sur vos conditions de circulation.
Pour un départ en vacances zéro tracas, MMA vous présente le radioguidage Europe 1.
Et si vous nous écoutez, que vous êtes sur la route des vacances, patience, il y a encore des ralentissements, Marion.
Oui, journée classée orange dans le sens des départs par Bison Futé. La sortie des grandes villes est compliquée, notamment à Bordeaux, Toulouse et Marseille en direction du sud et de la mer. Il y a beaucoup de bouchons sur l'autoroute A7, principalement entre Lyon et la Méditerranée. C'est également compliqué au niveau du tunnel du Mont-Blanc. Il faut patienter au moins une demi-heure pour pouvoir traverser. La circulation devrait revenir à la normale vers 21h et beaucoup de ralentissements également en direction de la Bretagne et de la Normandie. Le contournement de Rouen et de Caen est difficile. Ailleurs en France, la circule sans trop de problèmes.
On part maintenant sur les traces de la reine Victoria.
Au palais de Buckingham à Londres, où une exposition lui est consacrée pour célébrer le 200e anniversaire de sa naissance, on y découvre notamment comment la reine a fait le palais que l'on connaît aujourd'hui, une maison familiale et le siège de la monarchie britannique. Anaïs Cordoba.
Le palais somptueux d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui où Victoria, 18 ans, emménage 3 semaines après son accession au trône. Vide, en plein travaux, les cheminées et les toilettes ne fonctionnent pas, Liz Peter, curatrice de la Royal Collection.
La reine Victoria adorait quand même y vivre. Dans son journal, elle en parle avec éloquence, trouve que c'est joyeux. Elle s'y sent chez elle, à Kensington Palace où elle a grandi. Elle ne se sentait pas en liberté, sa mère contrôlait tout.
Elle fait construire la façade publique du palais avec le balcon d'où la famille royale salue la foule lors des grands événements. Sous son règne, Buckingham devient un point de ralliement national, ainsi qu'une maison familiale où elle accouche de 8 de ses 9 enfants.
Elle a la réputation de ne pas être une bonne mère, mais elle aimait beaucoup passer du temps avec ses parents. Chaque soir, elle avait l'habitude de donner le bain aux plus jeunes d'entre eux. La reine et son mari, le prince Albert, passaient beaucoup de temps dans la pouponnière du palais. Ce n'était pas courant pour l'époque. Dans les familles victoriennes, souvent, les enfants étaient élevés dans la pouponnière et voyaient à peine leurs parents.
Des dents de lait, des petits princes, aux robes de bal scintillantes, les trésors de la vie quotidienne de cette grande reine, rarement montrés au public, sont à découvrir jusqu'au 29 septembre. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et c'était le journal de Marion Jorth. Merci Marion, on vous retrouve à 20h. La météo, Laurent Cabrol, le ciel s'éclaircit et le mercure monte.
Eh bien, c'est une journée de lundi tout ensoleillée qui s'annonce, oui, avec des températures, ma foi, supportables, hein, même des températures de saison. 23 à Brest, 25 à La Rochelle, demain, 26 à Lille, Clermont-Ferrand et Strasbourg, à Caen, Nantes, Nevers, Poitiers, 27, 28 à Dijon, Cannes, Bourges, Rennes, Nancy, Lyon, 28 degrés, 29 à Paris et Toulouse, 30 à Marseille et 32 degrés dans la région de Nîmes. Le ciel sera dégagé sur la plupart des contrées dès demain matin. Le vent va se calmer un petit peu. Mistral et Tramontane vont vraiment baisser, 30-40 km/h. Et puis nous aurons dans le courant de la journée, disons des nuages qui vont se multiplier sur le Finistère, donnant quelques averses et en même temps engendrant des chutes de température légèrement significatives, alors que le vent va se renforcer. Nous aurons des rafales de vent entre 60 et 80 km/h sur le Finistère. Ce temps agité, disons, va simplement gagner le Côte d'Armor et le Morbihan sans jamais toucher les autres régions de France, peut-être la région nantaise, mais c'est tout. Donc une journée qui s'annonce quand même, en général, très ensoleillée.
Merci Laurent Cabrol. Europe 1. C'est la fin de votre grand journal du soir. Le week-end prochain, je laisse les clés de la maison à Thierry Dagiral. Je vous souhaite un très bel été sur Europe 1. Bonne soirée Catherine.
Merci Sébastien et bel été à vous. Bonnes vacances alors du coup.
Merci beaucoup, à bientôt.
19h10, le Club Tour spécial arrivée du Tour de France sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Axel May en direct des Champs-Élysées pour l'analyse de cette 21e étape, Rambouillet les Champs-Élysées, avec Thomas Beauclerc et Pierre Chassé.